Bonjour à tous et bienvenue sur Startcast, une initiative du comité étudiant polyentrepreneuriat à Polytechnique Montréal. Je suis Alexis et votre hôte aujourd'hui, et j'ai la chance d'être accompagné par Nilan Rofast. Bonjour Nilan.
Bonjour Alexis.
Alors, Nilan est un ancien étudiant de HEC Montréal qui a gradué en 2022 et qui a aujourd'hui, il travaille à temps plein sur son propre projet d'entrepreneuriat, Comparastore.com, qu'il a cofondé pendant ses études avec un ami. Alors Nilan, avant de nous parler de ce que c'est Comparastore.com, parle-nous de toi et de ton parcours académique. Comment es-tu passé d'être un étudiant au bac à devenir un entrepreneur autonome qui travaille sur son propre projet à temps plein en seulement 3 ans?
Oui, moi j'ai commencé à HEC Montréal en 2018. J'ai fait un bachelor en administration des affaires. J'ai fait une spécialisation technologie de l'information. Donc au début, quand j'ai commencé mon bac, je ne pensais pas forcément m'orienter vers l'entrepreneuriat. Et puis en fait, par la suite, j'ai eu des implications dans des associations étudiantes, fait pas mal de bénévolat où j'ai essayé de trouver en fait des opportunités en plus que les cours où je pouvais mettre en pratique des concepts et ce que je pouvais apprendre à l'école. Donc j'ai cherché en fait des associations qui étaient très professionnalisantes, qui pouvaient me donner de vraies expériences. Et à un moment, j'avais fait le tour un peu des opportunités que le monde associatif pouvait m'offrir. Et donc du coup, j'ai voulu commencer à penser, à me dire que j'allais peut-être travailler et investir des heures de mon temps en fait plutôt sur un projet plus personnel, plus propre à moi. Et donc du coup, en discutant avec des copains, donc on commençait en fait à se dire, écoutez, on va lancer quelque chose, on va lancer un projet. Puis c'est comme ça en fait que petit à petit, on a commencé à travailler pendant nos études sur la startup.
Parle-moi de cette idée, parle-moi du commencement du projet. Comment avez-vous trouvé l'idée? Est-ce que tu avais des années avant déjà pensé à ça, ou comment l'idée t'est venue?
Donc en fait, nous, avec donc deux amis à moi, on était tous les trois des étudiants internationaux. Et donc en tant qu'étudiants internationaux, pendant l'été, souvent on retourne en France ou on retourne dans notre pays d'origine. Et donc, en fait, nous, en fait, on avait besoin donc de repartir. Il y a aussi les échanges universitaires qui se font beaucoup. Et donc, du coup, on avait besoin de lâcher notre appartement à Montréal parce que on rentrait et on voulait garder nos meubles. Donc, on cherchait une solution pour stocker nos meubles IKEA parce qu'on savait qu'on allait revenir à Montréal et les réutiliser. Mais en même temps, donc, on voulait trouver une solution d'entreposage. Donc, on a commencé en fait à chercher où est-ce qu'on pourrait stocker ces meubles-là. Et en fait, on a vite abandonné de chercher en ligne des solutions. Et on a simplement demandé à une amie si elle pouvait garder donc, nos affaires et donc, quelques meubles chez elle pendant le temps où on n'était pas là. Donc, du coup, cette amie a gardé nos meubles pour nous. Et donc, ça nous a donné l'idée donc, de commencer en fait, avec une autre startup qui n'est pas le nom de Comparastore, mais qui s'appelait Entrepot.ca. Donc, en fait, de créer comme un Airbnb, donc de l'entreposage, ou des individus qui avaient de l'espace chez eux, donc un garage, un demi-sous-sol, une pièce qu'ils n'utilisent pas, pouvaient donc permettre à d'autres individus qu'ils puissent stocker donc des cartons, des meubles ou des boîtes. Donc c'est comme ça en fait que l'idée est venue, et puis on a vite commencé à travailler sur ce concept-là pour essayer de créer une vraie plateforme et une vraie start-up derrière.
Ok, et donc c'est vraiment devenu... C'est vraiment parti d'un besoin que tu avais ressenti. Et à quel point est-ce que tu t'es dit « Waouh, c'est ça mon opportunité, c'est ça que je peux transformer en une compagnie qui peut devenir vraiment un projet qui prend de l'envergure ?»
Je te dirais qu'au début, on ne pense pas forcément à tout ça. On ne pense pas forcément, en tout cas dans notre cas, on n'a pas pensé à l'envergure, on n'a pas pensé... C'est sûr que quand on s'est dit Airbnb de l'entreposage, on s'est dit « Ok, ça sonne bien, pourquoi personne n'y a pas pensé plus tôt ?» Mais en réalité, nous, c'était parce qu'on avait déjà l'habitude d'investir 10-15 heures de notre temps dans des associations, comme je le disais, sous forme de bénévolat. Et puis donc là, on a décidé en fait d'investir ces 10 et 15 heures dans un projet qu'on voulait mener, qui était propre à nous en fait. Donc au début, c'était simplement, venez après le cours, on s'assoit pendant 2-3 heures, on brainstorm un peu sur comment on peut faire avancer les choses, c'est quoi le concept, c'est quoi l'idée, comment ça va fonctionner, pensez aux petites subtilités. Et puis donc du coup, ça a commencé simplement comme ça, sans... sans penser à tout le modèle d'affaires forcément, parce qu'on n'avait pas du coup eu d'expérience entrepreneuriale avant, on n'avait jamais créé de start-up avant non plus. Donc il y a plein de choses qu'on pouvait ne pas faire dans le bon ordre, mais on voulait en tout cas juste avancer. Puis à chaque fois qu'on se re-rencontrait ou qu'on retravaillait sur le projet, qu'il y ait un avancement, une progression qui a été faite. Donc on y allait beaucoup en fait sous forme de logique. Donc ce qui était logique de commencer, par quoi, sur quoi prioriser, puis c'est un peu ça. Ouais.
Ok, pour nos auditeurs, aujourd'hui Comparastore connaît un très bon succès, ils offrent du service dans 117 villes au Canada, ils ont 302 entrepôts et 10 363 unités d'entreposage au total. Mais Nilan, comment en es-tu arrivé là? Parce que tu parles beaucoup de ton commencement et que ça n'a pas toujours été facile, donc est-ce que tu peux plus me donner de détails sur les challenges que tu as dû surmonter pour réussir, ou en tout cas, comment en es-tu arrivé à « Ok, c'est une compagnie que je veux créer, ok, c'est ça que je veux faire ». Donc parle-moi de tes challenges et parle-moi de, du chemin que tu as pris pour en arriver là.
Ouais, j'ai commencé par faire aussi expliquer la transition qu'il y a eu entre Entrepote.ca, qui était la Bien plateforme sûr. Airbnb de particulier à particulier, et Comparastore, qui aujourd'hui, c'est plus comme un booking.com. Donc c'est-à-dire sur Airbnb, on va trouver des chambres d'hôtes, donc c'est des individus qui louent leur maison. Donc nous, c'était un Airbnb de l'entreposage où les gens louaient donc leur garage ou espace inutilisé à des gens qui voulaient stocker des meubles. Puis maintenant, on est plus passé comme un booking.com de l'entreposage. Sur booking.com, tu as pu trouver des hôtels, alors que sur Airbnb, c'était des particuliers. Mais maintenant, sur Comparastore, tu ne trouves plus donc des espaces d'entreposage chez des individus, mais tu vas trouver ce qu'on appelle des mini-entrepôts chez des compagnies qui offrent ces services-là, comme U-Haul, Public Storage, Depotium. En France, le terme qu'on utilise, c'est garde-meuble, pour définir ce qu'est un mini-entrepôt. Donc, cette transition, elle s'est faite, pourquoi ? Parce qu'avec Entrepote.ca, il y avait beaucoup de gens, il y avait de la demande, les gens voulaient passer par la plateforme pour trouver donc des solutions de stockage, mais on avait des difficultés à trouver des individus qui étaient prêts à louer leur garage, leur pièce vide à des inconnus pour qu'ils viennent mettre des cartons dont ils ne connaissent pas la provenance. Donc on avait un enjeu à ce niveau-là, ce qui pouvait se comprendre. Et donc du coup, on avait plus de demandes que d'offres, puisqu'on était une marketplace, hein, donc on avait plus de personnes qui cherchaient que de personnes qui offraient des espaces d'entreposage. Et au moment où on avait cet enjeu-là, une compagnie qui s'appelle Montréal Mini Storage, qui est le plus grand opérateur d'entreposage au Québec, a essayé de créer son profil sur la plateforme de Entrepote.ca. Donc, on a contacté la compagnie, on lui a fait notre pitch de bienvenue. Et en fait, cette compagnie nous a mentionné qu'ils cherchaient à promouvoir plein de mini-entrepôts qu'ils avaient chez eux, mais qu'ils n'arrivaient pas à louer. Donc, ils cherchaient en fait à augmenter leur visibilité en ligne, à faire plus de marketing. Et comme ils ont vu qu'on avait une plateforme qui devenait donc de plus en plus connue, ils voulaient avoir un espace promotionnel sur cette plateforme-là. Et donc, du coup, suite à ça, on a eu une discussion avec mon cofondateur qui s'appelle Ange Blécon, qui est le directeur technique, donc qui s'occupe de toute la partie développement web, sur le fait qu'on allait effectuer un premier pivot, donc on allait changer de modèle d'affaires. Donc, suite à cette conversation, on a arrêté le modèle de Airbnb de l'entreposage. Donc, on a arrêté la plateforme de Entrepote.ca pour devenir maintenant Comparastore, qui est vraiment une marketplace pour trouver des mini-entrepôts, donc des services d'entreposage chez des compagnies.
Ok, donc il y a eu quand même pas mal d'étapes assez marquantes dans ton cheminement pour arriver à finalement Comparastore.com. Et pourrais-tu me dire quelles étaient... Avais-tu peur à un moment de ne pas réussir avec Comparastore? Avais-tu un redoublement de motivation pour vraiment attaquer ce deuxième projet? Ou avais-tu vraiment... Est-ce que ça va ne pas marcher comme Entrepote.ca? Ou est-ce que vraiment c'est ça que j'ai trouvé, c'est ça qui va marcher, j'en suis sûr?
Mais déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se lance en affaires et qu'on peut avoir une idée, souvent, même si on réussit par la suite... l'entreprise avec laquelle on va réussir va être très, très différente de l'idée initiale qu'on va avoir.
C'est sûr.
Il y a toujours beaucoup de pivots qui sont faits. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont aussi réussi, qui sont beaucoup plus avancés que aussi là où on en est avec Comparastore, et qui, eux, ont effectué entre 4 et 6 pivots dans leur parcours. Donc, c'est quelque chose qui est très normal, en fait, donc de faire une hypothèse, de créer quelque chose que tu vas mettre sur le marché, de voir en fonction du marché comment ça réagit, donc d'itérer là-dessus, puis donc de réessayer quelque chose de nouveau qui fonctionne mieux. Puis donc tu continues donc cette boucle d'itération jusqu'à ce que tu trouves ton product market fit, donc jusqu'à ce que tu trouves en fait ta solution gagnante, puis c'est ça après qui devient une entreprise à succès. Donc nous, bien sûr, donc il y avait cette appréhension là. De notre côté, je pense que le meilleur moment pour se lancer en entrepreneuriat, c'est quand on est jeune, c'est quand on est aux études. Pourquoi ? Parce que on a moins d'obligations. On n'a pas de famille, généralement on n'a pas d'enfants. Enfin, on a une famille, mais on n'a pas d'enfants, pardon, on n'est pas marié encore. Donc c'est plus simple, on n'a pas encore de prêt pour une maison ou quoi que ce soit. Donc on a moins de choses qui nous tiennent, qui fait qu'en fait, ça, en tant qu'individu, c'est moins risqué, dans mon opinion, de se lancer en affaires lorsqu'on est aux études. Pour moi aussi, c'est aussi le meilleur moment, parce que c'est là qu'on a le plus d'énergie. C'est là qu'on est en période aussi donc de découvrir le monde professionnel. Hein. On n'a souvent pas encore forcément eu de vraie expérience professionnelle, parce qu'on est toujours aux études, on est là pour ça. Donc je trouve que se lancer en entrepreneuriat lorsqu'on est toujours en études, c'est la chose idéale à faire, parce que ça nous permet de prendre un coup d'avance aussi sur les autres étudiants qui, eux, vont attendre de graduer pour justement commencer à rentrer dans le monde professionnel. Et puis, comme je le disais, en tant que jeune aussi, il y a beaucoup moins de risques. De notre côté, on n'a jamais vraiment eu cette peur, comme tu le mentionnais. Le moment où, en fait, on a commencé à plus se poser des questions, c'est quand on s'approchait de la graduation, parce que nous, on a commencé à se lancer en affaires à la moitié du bac. Et donc, du coup, on a quand même eu la moitié de notre période d'études où on pouvait travailler sur le projet. Puis là où justement ça devenait plus challengeant, il y a eu des enjeux, c'était quand la graduation approchait, puis qu'il fallait se poser la question de est-ce qu'on continue ou pas.
Ouais. Ouais. Alors tu t'es posé cette question et as-tu trouvé un travail classique en sortant des études ou as-tu continué à travailler à temps plein sur ton projet directement?
En amont de la graduation, avec Ange, mon cofondateur, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait faire. Autant dans notre vie, le type de carrière professionnelle qu'on voulait avoir, l'impact qu'on voulait avoir aussi. Et en fait, on était tous les deux d'accord sur le fait qu'on voulait continuer sur la voie de l'entrepreneuriat. En fait, une fois que tu touches aux fruits de l'entrepreneuriat, c'est difficile aussi d'en sortir. Mmh. C'est très addictif, c'est très enrichissant aussi. T'apprends beaucoup plus qu'ailleurs, selon moi. Donc, on voulait absolument continuer. Après, donc, la réalité, c'est aussi que voilà, il y a des enjeux de tu continues dans ton entreprise, surtout dans des startups qui sont technologiques, donc où il y a du développement web. Il y a une grande partie du début de la vie de l'entreprise qui est consacrée à de la recherche et du développement. Donc, c'est une période aussi où il n'y a pas de revenus qui rentrent forcément. Et donc, nous, quand on a gradué, on était toujours dans cette période de recherche et développement où il n'y avait pas de revenus qui rentraient. Donc, c'est bien beau de vouloir continuer, mais après, il faut aussi vivre, hein, être en mesure donc, de payer son loyer, manger, etc. Donc, la solution que moi, j'ai trouvée en graduant, c'est que j'ai travaillé à temps partiel pour une entreprise qui s'appelait V1 Studio, qui est en fait un programme d'entrepreneuriat qui aide les chercheurs scientifiques à se lancer en affaires. Donc, j'étais toujours dans le monde de l'entrepreneuriat et donc j'étais coordinateur d'un programme qui s'appelait le QCES. Et donc, du coup, justement, qui encourageait des PhD, des candidats au doctorat, etc., à concrétiser leurs idées entrepreneuriales. Donc, moi, ça m'a permis, en fait, à temps partiel, de toujours pouvoir travailler en grande partie sur Comparastore. En plus, mon travail à temps partiel était en télétravail. Donc, c'était un bon compromis qui me permettait à la fois donc, de vivre, mais aussi donc, de continuer d'avancer sur Comparastore.
OK. Et j'aimerais faire un retour au tout début. Tu me donnes l'impression que tu es entré dans le monde de l'entrepreneuriat avec beaucoup de confiance et déjà du savoir et des connaissances sur le sujet, mais que tu n'étais pas déjà décidé à ce que ça allait être ton futur. Et tu as aussi mentionné les comités étudiants. Est-ce que tu peux me donner, me dire ou me discuter de c'est quoi vraiment, c'était quoi les joueurs dans ta vie qui t'ont fait choisir cette voie-là ou qu'est-ce qui à faciliter ton accès au monde de l'entrepreneuriat. Où es-tu allé chercher l'information sur comment commencer une entreprise et tout ça? Est-ce que c'était les études? Est-ce que c'était tes comités étudiants, de la famille, des amis?
Non, c'est une bonne question. Je dirais que cette confiance en fait que je pouvais avoir au début de me lancer, j'ai aussi pu l'acquérir grâce aussi donc aux implications que j'avais dans le monde associatif. J'en reparle encore, mais je trouve aussi que c'est une très bonne chose, que ce soit à Polytechnique ou moi j'étais à HEC Montréal, qu'il y ait des associations qui permettent à des étudiants de parler à des entreprises. Moi j'étais beaucoup dans l'externe, donc je faisais de la vente aussi, donc je rencontrais régulièrement aussi donc des entreprises qu'on vendait en service de recrutement à l'international, bref. Donc j'avais déjà cet aspect de, j'avais eu un bon impact dans le domaine associatif, j'avais réalisé de beaux chiffres, de bons accomplissements, j'étais vraiment fier de moi. Donc je savais que j'étais en mesure de prendre un projet de zéro et quand même de faire quelque chose de bien avec. Et je pense que c'est ça aussi la beauté du monde associatif, c'est que souvent ça permet à des étudiants qui n'ont pas d'expérience de prendre un projet donc de zéro et de faire quelque chose de bien avec. C'est le cas aussi avec Polyentrepreneuriat, le podcast qu'on peut être en train de faire en ce moment, etc. Et donc du coup ça avait donné quand même une certaine confiance en moi, et puis après c'est sûr que l'entrepreneuriat c'est de la découverte, donc l'idée c'est pas d'avoir toutes les compétences, toute l'expertise ou toute la connaissance avant de se lancer, mais c'est justement de sauter le pas et donc du coup d'apprendre en même temps que tu avances. Quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est aussi donc le fait d'avoir pu faire donc des programmes entrepreneuriaux. Faut savoir que autant à HEC qu'à Polytechnique ou même au Québec en règle générale, on a de la chance d'être dans un très bon écosystème entrepreneurial où il y a beaucoup d'organisations qui soutiennent donc les entrepreneurs, donc les jeunes entrepreneurs, les startups, etc. Et donc du coup nous on a fait la première organisation qui nous a aidé, ça a été le parcours Rémi Marcoux. Donc on est rentré dans ce parcours qui est lié à la base entrepreneuriale de HEC. Donc la base entrepreneuriale, c'est le hub entrepreneuriat de HEC Montréal. Donc le parcours Rémi Marcoux, c'est un programme d'incubation où on fait partie d'une cohorte. Donc on avait été sélectionné parmi plus de 150 candidatures pour être l'une des 15 ou 20 startups de la cohorte du parcours Rémi Marcoux en début 2021, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, ça nous a permis d'acquérir aussi des compétences, de consolider certaines compétences en entrepreneuriat, d'élargir notre réseau, d'être aussi dans une cohorte avec d'autres entrepreneurs qui vivent la même réalité que nous, qui vivent cette réalité start-up-là. Donc c'est très motivant, c'est très encourageant. Et donc au jour d'aujourd'hui, on a fait peut-être 7-8 programmes entrepreneuriaux différents, qui nous ont, chacun nous a apporté en fait des éléments clés qui nous ont aussi beaucoup aidés. Et je te dirais que c'est intéressant parce que c'est un peu comme aussi donc, l'école des entrepreneurs. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je pense que c'est d'autant plus pertinent pour les étudiants qui se sont lancés en entrepreneuriat ou pour les personnes où c'est la première fois qu'elles se lancent en entrepreneuriat, c'est leur première start-up. Donc, de faire ce type de programme-là, ça donne accès des fois à du financement, à du réseau. L'esprit de cohorte, justement, donne aussi beaucoup plus de motivation. Donc, je te dirais que ça a été aussi un gros coup de boost pour concrétiser l'idée en projet d'entreprise.
Ok, ouais. Je ferai un petit retour à Comparastore, à ta compagnie. Alors, où tu y étais quand tu as choisi de faire ce pas, de passer d'Entrepote à Comparastore? Tu as décidé que ça serait juste des compagnies d'entreposage qui seront une partie de tes clients, la première partie de tes clients de Comparastore.com, et que l'autre partie serait des gens qui cherchaient des unités d'entreposage mais qui ne savaient pas où les chercher. Où as-tu trouvé ces compagnies-là? Où as-tu trouvé ces clients? Comment as-tu... Es-tu allé les contacter? Es-tu allé en présentiel, en personne? As-tu fait du marketing? Ou comment est-ce que tu as trouvé ta clientèle, en gros?
Ouais, mais comme je le disais aussi, qu'on a commencé avec notre première idée qui était Entrepote, donc le Airbnb d'entreposage. Je reprends ce terme parce que c'est plus simple pour les gens aussi donc, de visualiser comment ça fonctionne. En fait, on a été contacté par une compagnie d'entreposage, oui, au début. Ça a été l'élément clé qui a déclenché le pivot. Parce qu'on a été contacté par l'entreprise qui s'appelait donc Montréal Mini Storage, qui sont toujours nos clients aujourd'hui, et aussi donc qui sont donc, comme je le disais aussi, donc le plus gros opérateur au Québec. Donc en fait ça a été
un peu le catalyseur.
Ça a été, ouais, c'est ça. Ça a été l'élément déclencheur parce qu'on était aussi dans une situation où on avait un problème d'offre en fait. On avait problème de on n'en trouvait pas assez de gens qui voulaient louer leur garage ou des espaces de leur maison à des inconnus pour qu'ils viennent stocker des cartons, malgré le fait qu'il y avait de la demande. Donc le fait qu'on se fasse contacter par une compagnie qui, elle, pouvait résoudre ce problème d'offre-là qu'on avait, mais c'était l'élément vraiment déclencheur qui nous a dit « bon, on va pivoter, on va changer le modèle d'affaires ». Donc ça a été la première entreprise, en fait, avec lesquelles on a commencé à faire des affaires. Et pour trouver les autres, En fait, nous, c'est moi qui m'occupais donc du développement d'affaires, donc de démarcher ces compagnies-là, et c'était souvent par simplement appel téléphonique. Tu prends ton téléphone, tu appelles les compagnies. Le pitch était très simple. On leur disait que voilà, on était donc des jeunes étudiants d'HEC Montréal qui avaient un projet d'entreprise dans l'industrie de l'entreposage libre-service. Donc c'est le terme. Donc en anglais c'est self storage. En français c'est entreposage libre-service. Et en France métropolitaine, c'est plus garde de meubles qu'on utilise. On a contacté ces compagnies-là par téléphone. Donc on faisait des appels à froid, du cold calling. Et donc, du coup, simplement en leur disant qu'on est des jeunes, on a un projet d'entreprise sur leur industrie, on aimerait simplement pouvoir parler à des gens d'expérience dans le domaine qui peuvent nous donner du feedback, qui peuvent nous donner des retours sur les travaux qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on était très ouverts, on était aussi très transparents avec eux. Puis souvent, ces personnes-là aussi, elles ont un cœur. Quand elles voient que ce sont des jeunes qui appellent... Ils sont aimables au téléphone, ils sont cordiales, ils sont aussi très professionnels dans le sens où on était très clair qu'on veut juste prendre 20 minutes de leur temps pour leur parler sur quoi on travaille, leur partager la plateforme qu'on a développée jusqu'à ce jour, leur demander du feedback, etc. Ils étaient très intéressés, puis très ouverts. Puis donc, du coup, à la fin donc, de l'appel téléphonique, on leur demande de faire une rencontre en visioconférence. Donc première étape, appel à froid. Pour demander un meeting. Donc, deuxième étape, on fait le meeting en visioconférence, en Google Meet. Donc, le Covid a beaucoup aidé d'ailleurs là-dessus, parce qu'avant, c'était beaucoup moins fréquent de faire des rencontres d'affaires en ligne. Donc, depuis le Covid, c'est devenu vraiment la norme. On faisait ces rencontres-là en ligne en partageant notre écran sur ce qu'on avait pu développer. On récupérait le feedback. Puis, à la fin, on leur demandait est-ce qu'ils seraient partants d'être nos pilotes, en fait. Donc, de faire un projet pilote où on allait commencer à les répertorier sur la plateforme gratuitement, leur générer donc, cette visibilité en ligne supplémentaire gratuitement aussi pendant une période déterminée. Pour en échange de leur feedback, de leur retour, d'informations sur le marché, sur l'industrie que nous, on n'avait pas. Donc, ils nous permettent donc de aussi avancer sur nos hypothèses, de faire de meilleures hypothèses plus affinées aussi. Donc, c'est un bon compromis. En règle générale, le système de projet pilote, c'est un système qui fonctionne très bien pour les jeunes startups parce qu'en fait, la barrière est si basse pour l'entreprise parce que ça ne lui coûte rien. Généralement, il n'y a pas d'investissement financier pour elle. Il y a un investissement en temps qui est très minime. Donc, et toi, en tant que startup, ça te permet d'avoir rapidement des personnes qui sont là pour tester ton produit. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné au début.
Donc, le retour était quand même positif de ces appels à froid. Vous avez quand même eu beaucoup de oui.
Oui, exact. Ouais, exact.
Ok. Et tu as mentionné la valeur d'avoir du feedback de ces premières entreprises. Tu peux aller plus en détail dans l'importance, c'est ça, d'avoir des entreprises qui sont là vraiment et qui te donnent du feedback, qui te disent qu'ils sont des clients qui communiquent bien.
Bien sûr. L'un des mentors que j'ai pu avoir sur les derniers mois me disait que souvent, c'est pas bon signe si l'entrepreneur, il a pas au moins 10 ans d'expérience dans l'industrie dans laquelle il veut faire son entreprise. Donc, tu te doutes bien que quand nous, on a décidé de pivoter, on avait 21 ans, 22 ans.
J'imagine.
On n'avait pas 10 ans d'expérience dans le domaine de l'entreposage. Donc, par contre, on avait des compétences en programmation, des compétences techniques. On avait quand même une expertise qui pouvait venir apporter des bons projets, de bonnes idées à l'industrie de l'entreposage qui était quand même très traditionnelle. Mais par contre, il nous manquait clairement des connaissances sur l'industrie. Et donc, du coup, le fait de gratuitement aussi proposer ce projet pilote aux compagnies nous permettait de leur demander en échange des informations sur le marché. Et donc, nous-mêmes, après, de devenir un expert du marché aussi. C'est ça, je pense aussi, donc la clé, c'est de très, très bien connaître son marché, de pouvoir aussi savoir comment tes clients pensent, c'est quoi réellement leurs problèmes, leurs enjeux, de les laisser parler plutôt que toi parler, d'essayer de vendre. Parce qu'encore une fois, souvent, ta première idée, ce n'est pas la bonne. Donc, il faut que tu saches sur quoi tu vas pivoter, qu'est-ce que tu vas optimiser, qu'est-ce que tu vas changer dans ton modèle d'affaires ou dans ta technologie ou dans ton produit ou dans ton service. Et pour ça, il faut que tu fasses des entrevues, des discussions avec des clients qui te donnent des retours et du feedback. Mmh. Donc, c'est extrêmement important, surtout quand de base, tu n'es pas familier avec l'industrie en tant que telle. Et donc, du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. Et en fait, à un point où on a commencé à réaliser au fur et à mesure qu'on faisait des rencontres avec des compagnies d'entreposage que avec certains opérateurs, certains représentants de compagnies, on commençait à avoir même plus d'expertise que sur le domaine.
Waouh, ok.
Parce que justement, on discutait aussi avec tout type d'entreprises. Il y avait aussi beaucoup de petites entreprises d'entrepôts qui, eux, n'étaient pas forcément là pour avoir un gros business successful, mais l'entreposage, c'est aussi de l'immobilier. Donc, c'est aussi donc, des personnes qui, au lieu d'acheter un condo, elles vont acheter donc un terrain, elles vont construire un entrepôt dessus, elles vont le louer donc à des individus au pied carré, comme tu pourrais louer un appartement aussi. Donc ton prix dépend aussi donc de la surface de ton appartement, donc c'est de l'immobilier grosso modo. Et donc comme dans l'immobilier résidentiel, t'as beaucoup de gens qui investissent pour acheter un appartement, le louer par la suite, mais ils vont pas forcément être là pour le gérer tous les jours non plus, bien qu'après il peut avoir des problèmes d'eau, etc. L'entreposage c'est ça, mais encore mieux, dans le sens où quand tu achète un bien immobilier pour en faire une compagnie d'entreposage, tu vas avoir des gens qui vont venir déposer leurs meubles, leurs cartons day one, puis après qui ne vont pas revenir peut-être après avant 2 ans. Donc, tu n'as pas de gestion non plus de clients qui est intensive.
Ouais.
Donc, tu as beaucoup en fait, de business d'entreposage où c'est une affaire familiale en fait, où c'est souvent papa, maman qui avait acheté donc, ce bien-là. Les enfants ont récupéré aussi ces fois l'entreprise, mais elles ne sont pas là pour en faire un business successful. C'est juste qu'elles ont quelque chose qui tient bien, elles n'optimisent pas leurs opérations, elles ne cherchent pas vraiment à faire une entreprise qui va bien, bien, bien marcher. C'est juste pour avoir des revenus récurrents, passifs, chaque année. Donc ça, c'est surtout chez les petites entreprises. Et donc, chez les grosses entreprises, par contre, là, on a affaire quand même à des investisseurs qui sont plus assidus, plus éduqués aussi sur l'importance d'optimiser ses opérations, l'importance aussi de la technologie sur leur industrie. Donc, du coup, là, qui vont aussi donc, changer leur prix tous les jours, comme par exemple, le prix des billets d'avion va changer tous les jours. Mmh. Ou alors, les prix aussi donc, des hôtels, des chambres d'hôtel ou des choses comme ça, va changer en fonction de la saison, en fonction des événements qu'il va avoir dans l'année, etc. Donc, tu vas avoir des compagnies d'entreposage aussi où, par exemple, pendant l'été, il y a plus de déménagements. Donc là, ça va peut-être aussi coûter un peu plus cher que pendant les périodes creuses où il y a moins de mouvements. Comme par exemple, généralement, vers novembre, vers ces mois-là. Et donc, du coup, nous, on a au début, en fait, on apprenait vraiment de tout le monde. Puis après, on a constaté que c'était surtout donc, les moyennes et grosses entreprises d'entreposage qui nous apportaient des informations clés qu'on ne connaissait pas trop sur l'industrie, parce que c'était ce profil d'entreprise qui cherchait à pousser le plus possible le business model et cherchait le plus possible aussi à générer des revenus, lorsque les petites compagnies, elles, par exemple, gardaient les mêmes prix sur toute l'année. Mmh. Et donc, du coup, au niveau du revenu management et aussi donc de leur profitabilité, ça n'avait rien à voir avec des entreprises qui, chaque jour, vraiment essayaient de faire un business successful. Donc, tout ça pour dire que, en fait, ça nous a donné aussi cette légitimité lorsqu'on parlait avec des petites compagnies de dire, bah, nous, on comprend maintenant aussi comment fonctionne le business, qu'on parle avec des entreprises qui sont plus grosses que toi aussi, donc qui font des choses qui fonctionnent et que tu ne fais pas encore, et qui approuvent ce qu'on fait. Donc, c'était aussi donc, plus simple, même nous aussi, en termes de confiance, lorsqu'on parle à des compagnies plus petites, de pouvoir aussi donc les guider, les aiguiller sur certaines choses. Et puis donc du coup, même en dehors donc des services qu'on proposait à travers la plateforme, des fois lors de rencontres avec des clients, même eux maintenant nous posent des questions sur « Ah oui, donc pour mon marketing digital, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. Parce que maintenant, ils nous voient aussi non seulement en tant qu'experts de la technologie, experts aussi en marketing digital pour le domaine de l'entreposage, mais aussi on a vraiment développé cette expertise sur l'industrie du self-storage en elle-même.
Ah, et vous demandez des conseils carrément. Donc,
certaines compagnies, oui. C'est ça.
Donc, vous apportiez vraiment cette double valeur de, pouvoir échanger avec son compagnie et grandir ensemble, et aussi comparaçon.com à la base qui est juste
c'est ça.
L'ouvrir les portes à une plus grande clientèle.
C'est ça, exact.
Alors, tu as mentionné que ce service-là, au début, tu l'offrais gratuitement. Et que c'était vraiment attractif pour ces grandes compagnies et ces petites aussi, parce qu'eux, ils n'avaient pas grand-chose à faire, ils n'avaient pas un méga, investissement de temps de leur côté. Mais de ton côté, ça a dû être quand même, toi et tes cofondateurs, un assez gros investissement de temps et d'argent. Donc comment as-tu trouvé ce temps pendant tes études et pendant que tu travaillais à temps partiel et trouvé ce financement en fait? Parce que ça, commencer une compagnie, ça coûte pas peu cher.
Non, c'est sûr. Je vous dirais souvent, et dans la majorité des cas, on sous-estime à quel point ça peut être dur de monter une entreprise. Mmh. Et donc, en fait, je pense que c'est cette naïveté qu'on peut avoir au début qui fait qu'on peut être aussi motivé. Parce que si, depuis le jour 1, tu savais, en fait, par tous les up and down par lesquels tu allais passer...
Tu serais peut-être pas lancé.
Tu te serais peut-être pas lancé, okay. Ou ça pourrait donc ça pourrait déchauffer en fait dès le début. Au début, t'as des étoiles plein les yeux, t'as une idée, tu penses que juste le fait d'avoir une idée, comme elle sur le papier paraît bonne, que voilà, ça va devenir une entreprise à succès très très rapidement. Les choses prennent beaucoup de temps, surtout dans le domaine des startups tech. Donc du coup, il y avait aussi donc cette naïveté en fait qui nous motivait au début à toujours avancer, toujours se dépasser. Le fait aussi qu'on apprenne énormément en termes de compétences, d'expertise, on développait beaucoup nos skills.
En peu de temps aussi.
En fait, je pense que l'entrepreneuriat et se lancer en affaires, c'est le meilleur environnement possible pour développer de vraies compétences et aussi en tant que jeune sur le marché du travail, aussi pour se différencier donc des autres et de se benchmarker en fait. Parce que souvent, c'est ça, on investit dans nos études, on investit dans notre éducation afin d'avoir les meilleures opportunités professionnelles possibles. Sauf que, encore plus au jour d'aujourd'hui, maintenant, les employeurs, ils veulent aussi des personnes qui vont vraiment pouvoir aussi exécuter, qui vont vraiment pouvoir aussi donc délivrer, qui ont donc de l'expérience concrète ou qui ont quelque chose de concret à apporter. Et donc, je pense que la façon de devenir et de prouver qu'on est en mesure de faire du concret, de pouvoir livrer quelque chose de concret, la meilleure chose pour ça, c'est l'entrepreneuriat. Et donc du coup, nous en fait, on aimait simplement aussi juste cette aventure entrepreneuriale. Par exemple, mon cofondateur, il a fait HEC Montréal, il n'a pas du tout fait d'école de développement web, il n'a pas fait Polytechnique en génie logiciel ou quoi que ce soit. Il a vraiment été autodidacte sur le développement web. Et aujourd'hui, il a vraiment donc des compétences qui sont incroyables dans ce domaine-là.
C'est lui qui a fait votre site web.
C'est lui qui a fait le site web, c'est lui qui a vraiment donc tout développé.
Sans études
du tout. Et puis, donc, aujourd'hui, il a des compétences d'un ingénieur senior qui pourrait gagner 150 000 CAD à l'année, par exemple. Parce que l'un des oncles, en fait, de mon cofondateur travaille dans une des boîtes des Fortune 500 et il lui a déjà proposé, justement, en tout cas, on lui a déjà dit que si sa boîte ne réussit pas, qu'il pouvait venir travailler avec lui et qu'il allait l'embaucher pour... un job avec ce salaire-là que je mentionnais plus tôt. Donc, on a vraiment en fait pu développer donc des vraies compétences concrètes aussi.
Grâce.
Et donc, en fait, c'est aussi cette sécurité de se dire que même si il n'y a jamais la certitude que ça va fonctionner à 100%, mais dans le pire des cas possible, on a développé trop de skills et de compétences importantes et qui sont très valorisées sur le marché du travail pour vraiment se dire « j'ai peur d'avoir perdu mon temps ».
Ouais.
Donc c'est comme une éducation supplémentaire en fait qui vient se rajouter. Et sinon après en termes de financement, c'est sûr que nous on a toujours tout fait à l'interne. On avait la chance d'être très complémentaires avec Ange. Donc moi je m'occupais beaucoup plus de ce qui était levée de fonds, donc recherche de financement, le développement d'affaires, donc tout ce qui était l'externe en règle générale aussi donc de la compagnie. Ange lui était très aussi sur, puis non, je faisais aussi du développement produit bien sûr. Ange était beaucoup plus sur développement produit aussi, on le faisait ensemble, mais donc la partie plus technique, le développement web, etc. Et donc du coup, le fait qu'on ait ces compétences-là et qu'on soit aussi très, très complémentaires et qu'on soit très indépendant en fait vis-à-vis de compétences qu'on n'aurait pas. Donc on a pu quand même juste investir énormément de notre énergie, de notre temps dans la compagnie sans avoir besoin de beaucoup de capital ou de beaucoup de finances en complément pour recruter des gens, etc. Ceci dit, on a pu avoir accès à du financement grâce, encore une fois, parfois aux programmes entrepreneuriaux qu'on a pu faire. Mais je le mentionnais aussi tout à l'heure, l'écosystème entrepreneurial au Québec est très, très bien développé. Aujourd'hui, il y a énormément de subventions, de programmes d'aide aux jeunes startups qui sont offerts. Donc nous, à ce jour, on a pu lever près de 300 000 dollars de financement non dilutif. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de donner d'équité de la compagnie pour avoir accès à ce financement-là, grâce encore une fois à l'écosystème du Québec. Donc on est aussi très reconnaissant de l'opportunité qu'on a d'être ici, parce que c'est pas forcément partout qu'on retrouve ce type d'écosystème qui permet vraiment donc de supporter les jeunes entreprises. Il y a vraiment aussi un mouvement du gouvernement en ce moment pour encourager l'entrepreneuriat, encourager l'innovation. Et donc, du coup, ce financement nous a beaucoup supporté et nous supporte encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, c'est ça.
Et comment tu les trouves, ces programmes ou ces financements gouvernementaux ou des programmes extérieurs, des programmes d'entrepreneuriat, comme tu avais mentionné? Tu les trouves où? Est-ce qu'ils sont venus vers toi ou est-ce qu'ils étaient à l'HEC ou...
Le tout premier financement qu'on a reçu, c'était une bourse en entrepreneuriat. Donc des fois, il n'y a pas besoin de regarder très loin, hein. Même les étudiants de Polytechnique, de l'UNEM en règle générale, il y a toujours des bourses qui sont offertes, et je suis persuadé que dans plus ou moins chaque grande université, il y a des bourses aussi en entrepreneuriat qui sont offertes. Donc on avait eu une bourse, je pense, de 2000 ou 2500 dollars, quelque chose comme ça. Donc au début, qui nous avait donné un petit coup de pouce pour faire deux, trois choses. Et puis en fait, les premiers vrais financements qu'on a reçus, c'était grâce donc au ministère de l'économie et de l'innovation du Québec, donc qui mettent en place beaucoup de subventions pour aider soit à la commercialisation, soit à la recherche et au développement. Donc en fait, pour postuler à ce type de subvention, souvent il faut être incubé ou accéléré dans un programme d'entrepreneuriat. Donc je parlais donc du parcours Rémi Marcoux qu'on a fait. On a fait aussi ensuite l'accélérateur de la Banque Nationale. Donc grâce à l'accélérateur de la Banque Nationale, on a pu justement avoir une lettre de support de leur part qui nous a permis aussi donc d'accéder à un bon d'incubation, donc qui était une subvention qui nous avait pu nous financer à hauteur de 30-35 000 dollars, quelque chose comme ça. Ça a été donc des bons coups de boost. Et puis en règle générale, en fait, pour avoir accès à ce type de subvention, c'est se renseigner au travers des organisations d'entrepreneuriat, que ce soit donc les associations entrepreneuriat des universités ou les hubs entrepreneuriales des universités comme la base entrepreneuriale, Propolis,
oui.
Des choses comme ça. Et donc eux, souvent en fait le gouvernement va partager les subventions à ces organisations-là. Puis ces organisations-là, c'est leur travail de partager ces opportunités aux jeunes entrepreneurs, aux startups, etc.
Ok, et aujourd'hui vous en êtes où niveau financement? Est-ce que vous imaginez avoir des publicités sur votre site web, ou est-ce que vous prenez une cote de chaque vente en entreposage, ou comment vous pensez fonctionner dans le futur et aujourd'hui?
Ouais, donc au niveau de la marketplace, comme je disais, Comparastore, c'est une marketplace d'unités d'entreposage. Donc une unité d'entreposage, c'est quoi? C'est un mini entrepôt, c'est un locker, comme une porte de garage qu'on va venir ouvrir. Et puis là, on va avoir une certaine superficie où on peut déposer des cartons, des meubles, véhicules, etc. Donc nous, sur notre plateforme, on a des compagnies qui sont répertoriées, qui sont listées. Puis à chaque fois qu'on a un visiteur web qui vient réserver un garde-meuble, ben, la compagnie après va nous payer des frais de commission pour cette réservation qu'on lui a générée. Donc, quelque chose de très standard hein, dans les marketplaces. Airbnb fonctionne comme ça aussi. Booking.com, c'est la même chose. Beaucoup de systèmes de marketplace aussi utilisent le même modèle d'affaires. Mais aujourd'hui, Comparastore, c'est bien plus aussi qu'une simple marketplace. On développe notamment aujourd'hui donc des solutions tech qui permettent donc aux compagnies d'entreposage d'améliorer leur conversion client. Donc la marketplace, c'est un petit peu la face visible de l'iceberg de ce qu'on fait chez nous. Mais en fait, la face cachée, en fait, c'est la phase la plus importante, où il n'y a encore pas beaucoup d'annonces qui ont été faites au jour d'aujourd'hui sur ça. Mais on s'oriente beaucoup plus B2B maintenant.
B2B, peux-tu aller en plus des états?
Oui,
sur
oui,
termes,
oui, bien sûr.
Les auditeurs.
Donc B2B, c'est business to business. Ça veut dire qu'on fait... On fait affaire avec des entreprises directement, on vend à des entreprises. B2C, c'est business to consumer. Et donc, du coup, là, ça veut dire qu'on vend à des clients. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi, je vends du pain au chocolat au bord de la route, ben, je suis B2C parce que je vends à des individus. Si par contre, je vends du pain au chocolat à que des boulangeries, je suis B2B parce que je vends mon pain au chocolat à des entreprises. Donc ça, c'est pour la différenciation des acronymes. Et donc, du coup, nous, comme je le disais, avec Entrepote, au début, le Airbnb d'entreposage, c'était du B2C, hein, parce que c'était que avec des individus avec lesquels on faisait affaire. Et puis maintenant, avec Comparastore, donc on était plus sur du B2B2C, donc on fait affaire avec des entreprises pour aller après chercher des individus qui sont à la recherche de solutions d'entreposage. Et donc, au-delà de la marketplace pour ces entreprises permet d'avoir accès à une visibilité supplémentaire, d'avoir accès donc à plus de clients, à une plus grande base de clients. Puis nous, on leur développe aussi donc maintenant des outils qui vont être white label, donc qui vont pouvoir intégrer en fait à leur site internet pour améliorer comment leurs visiteurs web vont convertir. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a en fait, trois produits. Donc, il y a la marketplace, qui est le produit que tu connais, dont on vient de parler. Et les deux autres produits sont vraiment des outils que ces compagnies d'entreposage vont pouvoir intégrer à leur site internet pour améliorer l'expérience client qui est offerte et faire en sorte que beaucoup plus de leurs visiteurs web se convertissent en vente, en fait, et réservent et payent directement pour leur mini-entrepôt depuis le site internet des compagnies, mais pas sur notre site internet à nous. Donc ça, c'est la face partie de l'iceberg dont je te parlais. Mmh. Et donc, du coup, c'est deux outils qu'on propose. L'un d'eux, en fait, permet aux visiteurs web d'identifier la taille du mini-entrepôt dont ils ont besoin. Donc, c'est un calculateur d'espace d'entreposage. La raison pour laquelle on a travaillé sur cet outil, c'est parce que même si, par exemple, je sais pas, demain matin, toi, tu as besoin d'entreposer le contenu de ta maison, tu sais que tu as un sofa, tu sais que tu as deux matelas, tu as des chaises, des cartons, mais tu vas pas savoir combien de pieds carrés tu as besoin pour tout ça. Mmh. Tu vois. Donc, souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils vont appeler les compagnies pour demander des conseils, ou alors ils vont aller sur place, donc dans l'entrepôt, prendre des mesures avec des mètres, etc. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, nous, ce qu'on a créé, c'est un outil, donc c'est un calculateur d'espace d'entreposage en 3D qui permet aux utilisateurs de rentrer les objets qu'ils veulent entreposer. Et donc, du coup, nous, on leur fait une recommandation de la taille du mini-entrepôt idéal pour eux. Et on leur montre aussi, avec une visualisation en 3D, la façon la plus optimale de venir empiler les objets les uns par-dessus les autres pour maximiser l'utilisation de l'espace.
Wow.
Donc, c'est un petit peu, en fait, avec la technologie qui est derrière ça, c'est similaire au jeu Tetris. Je sais pas si tu connais le jeu Tetris.
Oui, j'imagine.
Donc, c'est un peu le même concept où on vient vraiment essayer de trouver la façon la plus efficace pour empiler les objets. Donc, ça sert du coup à l'utilisateur pour justement savoir comment aussi il pourrait les empiler le jour où il emménage. Ou aussi, et surtout en fait, pour identifier quelle taille de mini-entrepôt je peux réserver. Donc, comme ça sert à quoi? Ça sert que cet outil, lorsqu'il est intégré sur le site de Montréal Mini Storage, qui est l'un de nos clients, Montréal Mini Storage, ils ont un certain nombre de personnes qui visitent leur site internet par mois et ils permettent à leurs visiteurs web de réserver en ligne. Mais si moi, je veux réserver en ligne, je ne sais pas s'il faut que je réserve 20 pieds carrés, 100 ouais. pieds carrés, 150 pieds carrés.
Mais vous offrez...
Et donc, du coup, ils intègrent notre outil à leur site internet qui permet à leurs visiteurs web d'identifier, là, j'ai besoin de 100 pieds carrés, donc d'un 10 par 10. C'est généralement comme ça qui vont afficher les différentes dimensions. Et là, l'utilisateur peut se dire, grâce à l'outil de Comparastore, j'ai pu identifier que j'ai besoin d'un 10 par 10, donc 200 pieds carrés, et je vais pouvoir réserver directement en ligne sans avoir besoin d'aller sur place ou sans avoir besoin d'appeler le service client pour avoir des conseils sur la dimension dont j'ai besoin. Donc ça, c'est l'un des outils qu'on propose justement sous forme de white label. White label, ça veut dire que l'entreprise l'intègre sur son propre site à elle, donc assimile le produit comme si c'est son produit. Donc un visiteur web qui va sur le site de Montréal Mini Storage, il ne va pas forcément voir le nom de Comparastore, mais donc, Montréal Mini Storage, eux et les compagnies d'entreposage nous payent pour ça.
Mais c'est quand même votre mais produit, ça reste donc vous outil. Étiez les premiers à créer cet outil.
Exactement, oui. Exactement.
Ok, waouh, donc c'est quand même une assez bonne découverte ou création. Autre que ça, est-ce que vous avez d'autres outils? Est-ce que vous avez d'autres offres ou est-ce que vous avez d'autres moyens de financer en gros ce projet? Ou est-ce que vous avez des idées futures d'autres outils ou de projets complémentaires à Comparastore.com?
Oui, donc comme je le disais, on a trois produits.
Okay.
Donc là, on a parlé de deux produits. On a parlé de la marketplace et on a parlé donc du calculateur d'espace d'entreposage un peu sous forme de Tetris. Il y a un algorithme Tetris qui vient derrière.
Le marketplace qui est directement Comparastore.com.
Le marketplace qui est directement Comparastore.com.
Pour chercher.
Exactement. Voilà. Exactement. Donc marketplace, calculateur d'espace. Et le troisième outil qu'on propose et qu'on est en train de finir de développer, c'est un agent conversationnel qui est piloté par l'intelligence artificielle. Donc, grosso modo, c'est un chatbot qui est un chatbot expert dans le domaine du self-storage, donc dans le domaine de l'entreposage. Et donc, en fait, ça permet aux compagnies qui intègrent ce chatbot-là sur leur site internet d'offrir un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, du coup, le chatbot peut répondre à n'importe quelle question sur les disponibilités, sur les prix. Il va aussi se servir du calculateur pour donner des recommandations à la personne qui chatte avec lui sur la taille dont elle a besoin. Donc, il faut imaginer, en fait, un chat GPT, mais donc, du coup, de l'entreposage. Et donc, du coup, ce chatbot-là aussi permet donc de directement prendre en charge la réservation depuis l'interface de chat.
Ok, wow.
Donc, en fait, ce qu'on vient faire, c'est que... moi, ce que je pense, c'est que de plus en plus, les sites internet vont être amenés à changer et on va de plus en plus, en fait, passer des achats en ligne sous forme de conversation ou alors avec des assistants vocaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des conversation as a platform. Donc, par exemple, on le voit déjà que beaucoup de gens, même Amazon récemment, ils ont implémenté un chatbot sur leur site internet pour que les gens puissent justement, aux États-Unis seulement, je crois, uniquement pour le moment, pour que les gens puissent chatter avec le chat et avoir des recommandations. Donc, c'est une autre façon, en fait, de vivre l'expérience en ligne. Et donc, du coup, nous, ce chatbot-là, la raison pour laquelle on l'a créé, c'est que beaucoup de gens cherchent aussi donc, des solutions d'entreposage en dehors des heures d'ouverture des compagnies. Donc, généralement, la compagnie, si tu l'appelles, elle va te répondre au téléphone entre 9h et 17h. Mais si après, tu cherches après 17h, et c'est ce qu'on voit, qu'on analyse donc le nombre de recherches qui sont faites sur Google avec des mots-clés comme réservation d'entrepôt à Montréal ou des choses comme ça, c'est que les gens cherchent en dehors des heures d'ouverture. Et le problème, c'est que quand la personne arrive sur le site internet, elle a souvent encore des questions. Même si on a développé l'outil dont on parlait, donc le calculateur d'espace d'entreposage, des fois, elle veut savoir comment ça se passe au niveau des assurances, elle veut savoir s'il y a des frais d'administration, elle a plein de questions différentes sur est-ce que vraiment elle te fait confiance à toi comme entreprise pour mettre ses affaires, surtout si des fois c'est des affaires qui ont de la valeur, etc. Et donc du coup, si tu n'es pas en mesure de lui répondre à cette personne-là quand elle t'appelle, souvent elle va essayer d'appeler une autre compagnie. Puis les autres compagnies, des fois elles peuvent avoir des services de call center qui sont ouverts 24/24. Puis donc du coup là, tu perds le client parce que toi, tu n'as pas pu être en mesure de répondre à l'appel alors qu'une autre compagnie l'a fait.
Ouais.
Donc là, l'idée du chatbot.
Et c'est juste ça qui fait la différence.
Donc l'idée du chatbot, c'est justement de permettre aux entrepôts, sans avoir à besoin de recruter plus de main-d'œuvre, d'avoir une solution qui est automatisée et qui permet donc de gérer et de prendre en charge n'importe quelle requête client 24 heures sur 24. Donc on base cette technologie sur un LLM. Donc un LLM, c'est un modèle de langage large. Par exemple, ChatGPT est un LLM. Donc, OpenAI, qui est la compagnie derrière ChatGPT, permet, par exemple, donc, d'avoir accès à leur LLM sous forme de connexion API. Et donc, du coup, nous, on est agnostique au niveau des LLM qu'on utilise. Là, on parle de ChatGPT, ce que tout le monde connaît, hein, mais que ce soit Meta, donc Facebook ou Google aussi. Donc, chacun, ils ont leur modèle de langage large aussi, auquel on peut accéder. Et donc, on vient, en fait... faire du prompt engineering sur ces modèles-là pour vraiment le raffiner au cas d'utilisation précis qui est comment je fais pour réserver une unité d'entreposage. Donc, en fait, nous, c'est comme si on a formé un chatbot à faire en sorte qu'il t'aide le plus possible à identifier tes besoins et aussi qu'il va faire en sorte et t'encourager à réserver directement avec lui depuis l'interface de chat. Et donc, en fait, c'est quelque chose aussi qui, en dehors du contexte de l'industrie de l'entreposage libre-service, c'est quelque chose qui est encore pas très commun. Parce que cette histoire de LLM, de chatbot, d'intelligence artificielle, c'est très récent. C'est depuis surtout que ChatGPT a beaucoup, en fait, familiarisé le public à ces termes-là. Mais c'est très récent. Et donc, on voit de plus en plus de grosses compagnies, justement, qui viennent intégrer des chatbots maintenant pilotés par l'intelligence artificielle pour être en mesure justement d'offrir cette assistance-là de façon automatisée sans avoir besoin de recruter des représentants téléphoniques à tire-larigot. Et donc il y a des enjeux aussi qui viennent avec ça. Par exemple, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais Air Canada utilisait aussi ce type de chatbot-là. Et en fait, Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que des fois, les chatbots peuvent halluciner, parce que le modèle de langage large derrière va toujours chercher à faire plaisir, à donner une réponse, même si des fois, il n'a pas l'information. Et donc là, le chatbot IA de Air Canada avait donné une fausse promotion, avait donné une promotion qui n'existait pas à quelqu'un qui interagissait avec le chat. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'après, la personne a porté plainte et Air Canada a dû rembourser la personne. Et puis, donc, il y a eu des articles qui sont sortis. Donc, il y a quand même encore des technologies qui sont très récentes. Hein, donc, ce n'est pas encore très, très bien standardisé. Mais il faut bien comprendre que l'IA va beaucoup venir changer la façon dont on consomme des biens et des services sur les prochains mois, les prochaines c'est années. Et du coup, donc, chez Comparastore, on fait notre maximum pour justement être en mesure de développer des solutions pilotées par l'intelligence artificielle qui vont être sécuritaires et qui vont permettre d'optimiser considérablement comment les compagnies d'entreposage font du business, comment les compagnies d'entreposage gèrent leur expérience client et donc du coup, et aussi de rendre ça simple pour ces compagnies-là qui de base n'ont que très peu de connaissances technologiques. Surtout en termes aussi d'intelligence artificielle en la matière. Donc, on vient vraiment simplifier tout ce processus-là pour que, en fin d'expérience, pour l'entrepôt, c'est juste avoir accès à un agent IA qui prend en charge donc, tes clients, qui leur permet de donner donc, l'accès au prix, aux informations, etc., sans besoin qu'eux appellent tes représentants téléphoniques. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour deux raisons principales. Il faut savoir que l'industrie du mini-entreposage, ce n'est pas une industrie qui est très sexy. Hein. Donc même pour les gens qui nous écoutent, on parle d'entreposage libre-service, de mini-entrepôt. C'est normal que si ça ne vous parle pas du tout. Généralement, la raison pour laquelle les gens utilisent des garde-meubles ou des mini-entrepôts, c'est parce qu'il y a un changement dans la vie, dans son mode de vie, soit un déménagement, soit un voyage, soit c'est un militaire qui part en mission à l'international pour 4 ans, soit des fois il peut avoir un divorce, ou alors on vend sa maison pour prendre une maison plus petite, donc on veut stocker des meubles, ou des fois il peut avoir un décès dans la famille, donc on veut entreposer les affaires aussi.
Pas nécessairement des raisons très...
Exactement, donc c'est des raisons positives. Où il y a un changement dans le mode de vie, et donc il y a besoin d'avoir rapidement une solution. Encore une fois, ce n'est pas des solutions qui sont très gaies non plus, forcément, ça dépend encore. Bon, des fois, il peut y avoir des déménagements ou si je pars pour un échange universitaire à Singapour, bien sûr que je suis content de partir. Mais c'est juste que voilà, il y a vraiment cette nécessité, il y a un besoin vraiment. On ne va pas réserver un mini-entrepôt parce que ça nous fait plaisir de réserver un mini-entrepôt. On réserve un mini-entrepôt parce qu'on en a besoin. Et donc, du coup, souvent, c'est parce qu'il y a un changement du mode de vie. Donc, on a besoin rapidement d'avoir accès à l'information sur le service. Combien ça va me coûter? Est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est loin de chez moi? Est-ce que c'est sécuritaire? Comment ça se passe si je veux pouvoir accéder à mes affaires? Et donc, du coup, le problème, c'est que les compagnies n'affichent aucune de ces informations sur leur site internet. Donc, il faut envoyer des devis, il faut passer des coups de téléphone. Le problème avec les coups de téléphone, c'est qu'en moyenne, les compagnies manquent un appel sur trois. C'est-à-dire que si demain matin, Alexis, tu cherches un entrepôt et que tu appelles trois compagnies, il y en a une qui perd ses chances, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça le problème. Donc, à la fois, c'est frustrant pour toi parce que ça prend du temps de trouver d'avoir accès à l'information. Ça n'a rien à voir avec réserver un billet d'avion ou réserver un hôtel ou quoi que ce soit. Maintenant, on est habitué à des plateformes bien jolies où c'est 2-3 clics puis on trouve directement ce qu'on veut. Ça prend énormément de temps. Et encore une fois, on est dans un changement du mode de vie. Donc, on a besoin rapidement d'avoir accès à l'information.
Il y a besoin vite, rapide, ouais.
Et donc, du coup, tout ce qu'on développe comme technologie permettent à des compagnies d'entreposage justement de pallier à ces deux problèmes-là. Donc de justement leur permettre de donner accès à leurs clients potentiels, à l'information qu'ils recherchent, et aussi donc de pouvoir aussi prendre en charge ces clients de façon efficace. Et donc du coup, on veut faire ça grâce justement à, d'une part, donc notre agent conversationnel qui est en mesure de donner toutes les informations pertinentes justement. Toutes les questions qu'une personne pourrait avoir, il sera en mesure d'y répondre. Et donc, du coup, non seulement c'est bénéfique pour l'entrepôt, parce que là, il manque moins de potentiels clients, mais c'est aussi bénéfique pour les consommateurs, parce qu'ils ont accès plus rapidement à l'information.
Complètement. Donc, ça serait vraiment un game changer, votre...
Exact.
Comment l'appelles-tu? Est-ce que ça a un nom?
Ouais. Nous, on va l'appeler Store Agent.
Pas mal.
Donc, on n'a pas encore fait d'annonce formelle, mais À partir d'avril 2024, donc en début du mois prochain, on va justement faire une annonce publique pour le lancement de StoreAgent. On va aussi participer au plus grand salon du self-storage qui a chaque année à Las Vegas. Donc, il y aura plus de 4200 personnes qui participent. Et donc, du coup, c'est là qu'on va faire le lancement donc, de StoreAgent et aussi donc, du Space Stacker. Le Space Stacker qui est donc le calculateur d'entreposage 3D.
Le Tetris d'entreposage.
Exactement.
Ouais, ce serait vraiment un game changer et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de changements dans comparaison qui vient pour la suite.
Exact.
Est-ce que tu as d'autres projets futurs ou est-ce que tu as d'autres idées ou même si c'est lointain, est-ce que tu as des petites pépites? Ben,
on a toujours des projets futurs. Je vous dirais souvent quand on voit une compagnie tech en ligne ou sur son LinkedIn ou sur son site internet, on voit vraiment encore une fois la face visible de l'iceberg puis on voit souvent pas ce qu'il y a derrière.
La face cachée de la lune un peu.
Exactement. Mais oui, on a des projets futurs. On explore beaucoup en fait à quel point la technologie qu'on développe peut avoir un impact positif sur d'autres cas d'utilisation. Je m'explique. Le Space Stacker, donc, qui est l'algorithme Tetris qui vient empiler les objets et faire des recommandations de taille, d'entreposage, pourrait être utilisé aussi par des compagnies qui louent des camions de déménagement. Pourquoi ? Parce que les compagnies qui louent des camions de déménagement, comme U-Haul aussi, souvent il y a plusieurs tailles de camions. Et souvent, les individus ne savent pas non plus quelle taille de camion réserver. Et donc, c'est la même question. C'est la même question de quelle taille de camion j'ai besoin. Ben, l'algorithme de Tetris, justement, en fonction des objets que tu veux mettre dans le camion, te permettra d'identifier ça. Mais bien plus encore, tu vas avoir donc, des cas d'utilisation aussi au niveau donc, du supply chain, avec donc, les conteneurs maritimes dans les cargos, où justement, le conteneur qui soit rempli à 50% ou à 100%, tu vas payer le même prix pour faire livrer un conteneur. Donc, tu es tout à ton avantage qu'il soit rempli à 100% pour rentabiliser ton investissement de livraison dans le conteneur. Et donc, du coup, là aussi, en fait, dès qu'il va avoir cette question de « on a un espace prédéfini pour stocker des choses », ben, cet algorithme Tetris pourrait permettre justement d'avoir accès à la façon la plus optimale pour maximiser l'utilisation de l'espace. Donc en supply chain, ce serait quelque chose qui serait très pertinent et auquel on pense depuis que très peu, depuis très récemment, hein, depuis peut-être moins de 10 jours en fait qu'on y réfléchit. Donc que ce soit pour même par aussi donc les livraisons dans des conteneurs maritimes, les transports de camions aussi pour les marchandises, les transports aussi donc d'avions, donc les cargos, pour tout ce qui a les palettes en fait d'entreposage aussi, donc tout ce qui est maximisé l'utilisation d'un espace prédéfini qu'on a, l'algorithme qu'on a développé permettrait justement donc d'identifier avec précision la façon la plus optimale d'empiler les objets par-dessus les uns les autres et donc du coup de faire gagner déjà de l'argent parce que on maximise plus l'utilisation du conteneur, de l'avion, du camion. Ça permet de faire moins de déplacements aussi parce qu'on a mieux rempli. On utilise à capacité maximale le camion, donc il y a un gain de temps aussi pour la compagnie. Et aussi, donc, il y a une réduction des dépenses faites aussi sur l'essence. Parce que donc, du coup, ces compagnies-là aussi, l'une de leurs dépenses principales, ça va être donc, le fuel ou l'essence utilisée pour faire donc, des va-et-vient. Donc, leur permet d'économiser ça, en plus d'avoir un impact aussi positif sur l'environnement, parce qu'on réduit aussi donc, les émissions que, justement, tout ce qui est... cargo maritime, camions de transport, etc. Ça représente, par exemple, en Europe, 30% des émissions de carbone. Donc, si on est en mesure aussi donc, de pouvoir faire en sorte qu'il soit plus rempli, être utilisé à une capacité plus maximale aussi, plus efficacement, ça permet justement donc, de réduire aussi tant que ça. Donc, c'est très intéressant, en fait. Il y a beaucoup de choses. C'est encore au stade de l'idée. Donc,
beaucoup de potentiel.
On fait beaucoup de recherches dessus. En fait, c'est grâce à un programme qui s'appelle le Creative Destruction Lab qu'on a fait, avec lequel on parle avec des mentors de ce programme-là qui nous ont parlé de cette idée. Et donc, on rencontre beaucoup de gens qui travaillent dans le supply chain pour voir justement quel cas d'utilisation serait le plus pertinent pour cet outil qu'on a développé. Mais il y a un grand potentiel. Pour l'instant, on est quand même très concentré donc, sur le domaine du self-storage, donc de l'entreposage libre-service. Mais pour répondre à ta question, oui, on voit des projets futurs dans ces aspects-là.
Ok, ouais, bah c'est très excitant. Il y a beaucoup de, on peut s'attendre à beaucoup de choses de Comparastor dans le futur, dans les prochains mois. Et j'avais juste une petite question par là. Las Vegas, cet événement de cette réunion ou cette conférence de société d'entreposage, est-ce que vous avez été invité ou est-ce que vous vous êtes enregistré pour y participer?
Non, on aurait bien aimé être invité, mais on pèse pas encore assez dans l'industrie
pour
être invité. Mais donc non, en fait, on va avoir un stand, ce qu'on appelle un booth en anglais. On a payé très cher pour être présent là-bas. Faut savoir que être présent dans des conférences justement très très corporate, comme ça coûte très cher si on va avoir un stand, etc. Mais pour nous, c'est une très belle opportunité parce qu'il y aura aussi des conférences et des workshops qui seront donnés sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'industrie, donc du self-storage. Donc on ne veut pas manquer le coche, surtout que les deux produits dont je t'ai parlé, donc le Space Stacker et le StorageAnt, on ne les a pas encore annoncés publiquement. Et donc, ça va être l'opportunité aussi pour nous de les mettre en avant dans notre stand et donc d'acquérir donc, des premiers clients sur ces deux produits-là. On y sera présent et puis du coup, on va pouvoir rencontrer donc, plein de leaders aussi donc, de l'industrie, rencontrer aussi donc, d'autres fournisseurs technologiques de l'industrie aussi, donc du self-storage. Donc ça va être, je pense, une très bonne expérience aussi, même pour nous, pour voir les réactions aussi donc des joueurs américains sur la technologie qu'on a développée.
Vous êtes juste au Canada.
Exactement.
D'après ce que je comprends.
Exactement.
Ok. Et quand tu dis « nous », est-ce que tu parles juste de toi et tes cofondateurs? Est-ce que vous avez des employés pour l'instant?
Oui, donc on est deux cofondateurs, moi et Ange Blécon. Donc Ange qui est le CTO, moi je suis le CEO. Et puis donc on a trois membres permanents, Nicolas, Carlos et Henrik. Donc Nicolas s'occupe des opérations majoritairement. Après Nicolas est aussi très, très ambivalent, des fois en fonction aussi donc, des priorités de l'entreprise. Il peut faire des tâches plus sur le marketing ou aussi donc, du développement d'affaires. Carlos est notre développeur web qui supporte énormément aussi Ange dans l'aspect programmation. Et on va avoir Henrik qui lui est notre scientifique de données. Donc, a fait sa maîtrise à HEC Montréal en data science. Et donc, on est cinq actuellement. De temps en temps, on va aussi avoir des talents qui font des programmes de stage chez nous pour des périodes déterminées. En ce moment, on a trois talents qui font des stages chez nous. Donc, l'équipe est constituée de 8 personnes. Mais sinon, en ce moment, de façon permanente, on est 5 membres temps plein.
Ok, ces 5 membres, est-ce que vous étiez amis avant ou est-ce que vous les avez trouvés
Ange et moi, on s'est rencontrés à HEC Montréal, donc on était camarades de classe avant toute chose. Et Henrik aussi. Donc Henrik, notre scientifique de données, était à HEC avec moi. En fait, c'était l'une des toutes premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant à Montréal. Ça faisait en fait un moment que Ange et moi aussi, on voulait travailler avec Henrik, parce que Henrik est une personne très compétente aussi. Donc on est très content qu'il ait rejoint l'équipe. Ensuite, Nicolas, ça a été du pur hasard. On a fait une annonce sur LinkedIn pour un poste qu'on voulait recruter. Nicolas a postulé.
Ok, wow.
Et Nicolas est vraiment notre tout premier employé. C'est lui qui a commencé avec nous. C'était le troisième membre de l'équipe. C'est aussi une personne exceptionnelle qui se débrouille extrêmement bien. Qui fait preuve d'une grande capacité d'adaptation aussi. On est très content aussi donc de ce qu'il est en mesure de délivrer. Et Carlos, c'est exactement la même chose en développement web. De base, Carlos, lui, était rentré chez nous en tant que stagiaire. Et puis, on a décidé de l'embaucher à temps plein, en fait, à la fin de son stage, parce qu'on était très satisfait avec ce qu'il faisait.
Ok. Ok, est-ce que quand tu dis chez nous, est-ce que vous faites ça, vous faites pas ça de la maison? Est-ce que vous avez un office?
Oui, donc on a un bureau. Nos premiers bureaux, c'était à la base entrepreneuriale, à HEC, à l'édifice de Dessel, au 5e étage.
Okay.
Parce que souvent, donc, les organisations entrepreneuriales proposent des bureaux ou des espaces de coworking à leur start-up. Et puis donc maintenant, on travaille en fait dans les bureaux de NextAI. NextAI qui est donc le plus gros incubateur, accélérateur de start-up en intelligence artificielle au Canada. Donc on est rentré chez eux en mars 2023. Et on a gradué de leur programme en septembre 2023 et on travaille toujours du coup dans les espaces de coworking de NexAI, donc qui sont situés dans le Mile X, juste à côté aussi donc du MILA, qui est l'Institut d'intelligence artificielle de Montréal. Donc on est vraiment dans un très bon environnement avec d'autres startups aussi, très deep tech, qui travaillent. Donc c'est un environnement très enrichissant. Oui.
Ok. Ben Nilan, on approche la fin, j'ai l'impression qu'on a tout couvert, mais j'aimerais te demander une petite question par là. Est-ce que tu aurais des conseils? Parce que je vois que tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup de passion pour ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un aujourd'hui, un étudiant à Montréal qui veut se lancer en affaires, qui a trouvé une idée comme toi et qui veut la pourchasser?
Bien sûr, ben je dirais lance-toi carrément.
Prends le pas.
Surtout si tu es étudiant, c'est le meilleur moment pour se lancer. Il y a très peu de risques en réalité de se lancer tout de suite. Tu vas apprendre beaucoup. C'est une belle opportunité justement de voir ce que cette idée vaut. En fait, une idée, elle ne vaut rien. Moi, je pourrais dire, j'étais le premier à avoir l'idée des voitures volantes. Mais si je ne suis pas en mesure de créer une voiture volante, mon idée ne vaut rien. Avant Uber, avant Airbnb, il y en avait eu d'autres qui avaient eu exactement les mêmes idées, mais qui n'ont pas réussi à les concrétiser. Parce que le tout, c'est de savoir exécuter et de savoir justement mener cette idée-là à un projet concret. Et donc du coup, dès que quelqu'un peut avoir une idée ou a identifié un problème dans une industrie, dans un marché, l'idée, c'est d'essayer le plus rapidement possible de voir si ça fonctionne. Donc, je pense que la période d'études, c'est le meilleur moment pour ça. C'est le meilleur moment d'essayer des choses. Et en règle générale, le plus on peut justement arriver avec de bonnes idées qui pourraient avoir un impact positif par rapport à un problème qu'on constate, le mieux c'est aussi. Donc, j'encouragerais à 100%.
Et je trouve ça très beau et poétique que tu dis que l'entrepreneuriat, ça a été comme une école pour toi et que ça n'a pas été une perte de temps, même si tu ne faisais pas d'argent au début, parce que toi et tes collègues ont gagné tellement de compétences qui sont applicables à d'autres univers grâce à ça.
Ouais, exact. Donc c'est ça.
Bah alors, merci beaucoup pour cette entrevue, Nilan. Avant de terminer, je vous invite à visiter comparastore.com, le site officiel du projet. Et Nilan, où pouvons-nous te trouver si un auditeur aimerait te contacter? Comment peut-il le faire s'il veut travailler avec toi ou autre?
Ben, le plus simple, je pense que ce serait LinkedIn. Donc, de nous contacter directement sur LinkedIn. On peut aller aussi sur notre plateforme en ligne, comparastore.com, comparastore. On a donc notre adresse courriel aussi qui est mise sur le site internet où on peut nous contacter en tout temps, que ce soit si c'est des personnes en génie informatique, logiciel, qui aimeraient aussi travailler dans une entreprise tech, qui cherchent des opportunités. Nous, on est toujours très ouverts justement à rencontrer justement des personnes qui cherchent de belles opportunités de travail, ou que ce soit aussi des personnes qui veulent se lancer en affaires, qui ont des questions, qui aimeraient des conseils ou quoi que ce soit. Ça nous ferait aussi grandement plaisir de pouvoir les aider ou les rediriger aux bonnes personnes. Contactez-nous sur LinkedIn. On est très joignable, on est très ouvert. Beaucoup de gens nous ont aidés, nous, quand on s'est lancé. Donc, c'est normal aussi de pouvoir aider n'importe qui est dans notre réseau et qui aurait besoin d'aide. Donc, ce sera avec plaisir.
Alors voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Alexis Gasque et Nilan Rofast sur Startcast, une initiative de Poly Entrepreneuriat. Je vous dis à la prochaine et bonne fin de journée.